les jardinières.
Pour ce dernier week-end du mois de février, on vous propose une émission spéciale. Ce matin, nous parlons de viticulture. Bonjour Brian.
Bonjour Mylène, bonjour à tous.
Nous sommes en compagnie d'Annie Rossi. Bonjour et bienvenue chez les jardinières.
Bonjour à tous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Annie Rossi, vous êtes œnologue et régisseur au domaine de la Grillette à Crécy dans le canton de Neuchâtel. Et vous allez nous partager la passion pour votre métier jusqu'à 8h.
En votre compagnie, nous allons visiter votre cave, parler vignes, raisins et vins. Soyez les bienvenus dans les jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
L'hiver n'est pas encore fini, hein. On en a la preuve ce week-end avec les températures qui chutent. Mais la nature commence gentiment quand même à se réveiller. Annie, qu'est-ce que vous faites dans les vignes fin février ?
Alors, fin février, nous sommes en train de tailler. On se dépêche parce qu'il y a quelques signes qui montrent que le printemps arrive, mais on taille et puis on broie les serments. Donc, c'est-à-dire que les bois qui sont tombés au sol, après la taille, on va les broyer et puis comme ça, ça va être restitué dans le sol et puis ça va permettre de rapporter de la matière au sol.
Vous les remettez directement, vous les broyez puis après vous les remettez au pied des mêmes vignes.
On les broie sur place en fait, les broie dans les vignes sur place. Ouais.
Ce qui est bien pratique. Ouais.
Si vous avez des questions à propos des vignes ou de la viticulture, n'hésitez pas à nous appeler au 0900 70 20 20 ou en remplissant le formulaire disponible sur notre site sous l'onglet émissions questions aux jardinières par SMS en tapant jardin, un espace et votre question et vous nous envoyez ce message au 939.
Dans quelques minutes, rendez-vous à Crécy en compagnie de notre invitée Annie Rossi. Nous allons apprendre ce qu'est une bibliothèque ampélographique.
Les jardinières.
Ce matin, les jardinières se baladent dans les vignes. Jusqu'à 8h, nous parlons de viticulture, œnologie et raisins en compagnie de notre invitée Annie Rossi. Nous sommes venus vous rendre visite à Crécy, Annie, et devant votre domaine, on trouve une bibliothèque ampélographique.
Et Annie, vous nous avez justement expliqué à quoi sert cette bibliothèque.
Toute une collection de cépages différents et ça nous permet de voir comment ils poussent parce qu'ils vont pousser à une vitesse différente et puis ça va faire des feuilles différentes, des raisins différents, des goûts différents et tout ça pour nous c'est très intéressant à voir et puis à montrer aussi. L'idée c'est qu'on a tous ceux qui sont cultivés à la Grillette, donc il y en a 14, plus plein de cépages différents qui viennent un peu du monde entier et de voir comment ils s'expriment ici.
Ben justement, vous nous présentez hein, qui vient d'ailleurs que du canton de Neuchâtel.
Alors, il y en a qui viennent de pas très loin. Il y a du Poulsard là-bas. Mm-hmm. Le Poulsard, c'est plus dans la région du Jura et ça, j'aime beaucoup. Et puis après, on a des petits cépages du sud de la France aussi. On a un Caladoc. Un Caladoc, c'est un croisement qui est assez récent, qui a été développé à Montpellier. On a aussi du Touriga National par là-bas. On a plein de cépages dont on n'a pas forcément entendu parler.
Et ils ont tous la même taille, c'est fait exprès ?
Alors, ils sont tous taillés de la même manière, oui, ça c'est fait exprès.
Parce que si on les laisse en liberté, un arbuste de vigne, un pied de vigne, ça peut devenir grand ?
Alors déjà, ça n'aura pas la forme d'un arbuste parce qu'une vigne, c'est une liane. Ah. Donc en fait, la vigne, si tu veux, ce sera un peu presque comme du lierre. Et ça, on oublie parce que quand on voit les pieds de vigne, on les voit, ils sont toujours bien taillés, ils sont toujours, comme tu as dit, en arbre. Et en fait, on oublie que c'est une liane. Et si tu la laisses faire, ben, ça pousse comme une liane. Voilà.
Là, c'est joli par terre, c'est un petit gazon. Mais dans les vignes qu'on voit au pied de la montagne, il faut désherber aussi comme dans un potager ?
Alors, il faut éviter effectivement qu'il y ait beaucoup d'herbes qui soient trop proches des feuilles, puisque ça va être vecteur de maladies, ça va garder l'humidité, donc ça va développer certaines maladies. Donc, on enlève l'herbe, oui. Nous, on fait ça maintenant 100% mécaniquement. On n'a plus d'herbicides depuis plus de 10 ans.
Est-ce qu'on pourrait imaginer mettre des animaux comme des moutons ou des poneys ?
Alors, c'est une bonne question. On peut mettre des moutons, on voit beaucoup de moutons dans les vignes, mais les moutons, on les voit l'hiver. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu n'as pas vu des moutons l'été. En fait, le problème, c'est que les moutons, suivant leur taille, et, ils vont venir manger effectivement les petites pousses et potentiellement le raisin. Donc, en fait, finalement, pour nous, ce qui est intéressant, bah, comme dans un potager, c'est d'enlever l'herbe pendant le printemps et l'été quand ça pousse. En hiver, ce n'est pas vraiment le principe d'enlever de l'herbe. Mais, j'ai vu tout récemment des sortes de petits cochons qui étaient adorables, qui étaient trop mignons et qui apparemment n'atteindraient pas, qui sont assez petits pour pas atteindre la taille des la hauteur des raisins et qui du coup pourraient être utilisés en été.
Et ensuite, on en fait un petit saucisson.
C'est parfait, au moment des vendanges, on fait une nouvelle version du saucisson neuchâtelois.
Bon, Annie, est-ce que depuis que notre visite au domaine de la grillette à Crécy, est-ce que vous avez des petits cochons maintenant?
Toujours pas, mais je regarde le projet quand même.
Et puis si les moutons mangent les jeunes pousses, d'autres sont aussi attirés par les raisins. On pense par exemple aux piétons gourmands. Hein. Quand on passe à côté des vignes, on a tous envie de tirer un petit raisin. Est-ce que vous mettez en place des mesures pour protéger vos vignes?
Alors, contre les piétons gourmands, on a des garde-vignes communaux. Donc, qui sont. Il y a deux personnes de la commune et engagées par la commune qui tournent au moment des vendanges, au moment où le raisin est mûr, pour, en fait, pour chasser les gourmands.
Et puis, un autre prédateur au raisin, ce sont les oiseaux qui s'attaquent aux vignes, justement. Comment vous les faites fuir?
Alors les oiseaux, c'est aussi la même chose, c'est aussi les garde-vignes qui ont pour but de tirer et d'éloigner les vols des tourneaux notamment. On a aussi des filets quand on est trop proche de la forêt, on a on peut mettre des filets. Et puis comme autre prédateur, on a aussi des chevreuils. Et puis les chevreuils mangent les petites pousses et puis ils mangent aussi les raisins. Et pour les chevreuils, nous, on a trouvé quelque chose qui marche très bien, qui est assez spécial. C'est qu'on met de la laine de mouton. On accroche au piquet de tête des vignes de la laine de mouton. En fait, le chevreuil associe le mouton à l'homme parce que quand il y a des moutons, il y a forcément un berger. Donc du coup, le chevreuil, en sentant l'odeur de mouton, va se dire « Ah, il y a des hommes pas loin » et donc ne va pas rentrer dans la parcelle. Et c'est la meilleure chose qu'on a trouvée pour l'instant pour les chevreuils.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous d'avoir une récolte décimée à cause d'un animal, que ce soit les oiseaux ou les chevreuils?
Alors, on a eu les oiseaux, oui. On a eu les oiseaux parce que nous, on a des cépages qui sont un peu plus tardifs. Donc des fois, les protections par les gardes... par les gardes communaux s'arrêtent un peu tôt. Et puis surtout, on est les derniers raisins, en fait, à rester sur les vignes. Et donc, on est un petit peu plus soumis aux prédateurs. On a eu des vols des tourneaux qui ont mangé du vionnier. Et puis, on a eu des chevreuils qui ont mangé du divico aussi. Ouais.
Merci beaucoup, Annie. Dans la suite, nous parlerons de formation pour devenir viticulteur ou viticultrice après une pause musicale.
Les jardinières.
Les jardinières parlent de vignes ce matin, de viticulture et de raisins. Nous sommes en compagnie d'Annie Rossi, œnologue à Crécy. Annie, avant de parler de formation, comment est née votre envie à vous de devenir œnologue?
Alors, je crois que je suis un petit peu tombée dedans quand j'étais petite.
Je sais pas si c'est très flatteur pour vos parents de dire ça.
Alors, c'était pas mes parents, mais j'étais gardée dans un domaine. Mes parents travaillaient tous les deux, puis ma nourrice, en fait, était vigneronne, et puis dans une assez jolie région à Châteauneuf-du-Pape. Donc, voilà.
Et puis Annie, comment est-ce qu'on fait pour devenir œnologue? Est-ce qu'il y a un apprentissage ou quelle formation?
Alors, pour devenir réellement œnologue, pour le titre d'œnologue, il faut un bachelor en œnologie qui est dispensé à la Haute École de Changin et puis qui peut se faire après un CFC, soit de viticulture, soit de caviste.
Et bien justement, on va parler un petit peu de viticulture. Là, c'est un apprentissage pour devenir viticulteur ou viticultrice?
Oui, alors il existe un CFC de viticulteur. Et ce CFC permet d'apprendre la production de la plante, donc la production de la vigne, aussi toutes les machines et puis l'entreprise.
Et puis une fois les formations terminées, comment on fait pour avoir sa propre vigne?
Alors pour avoir sa propre vigne, il faut se rapprocher de propriétaires et puis on peut tout à fait louer des vignes à des propriétaires ou acheter sa propre vigne.
Il y en a beaucoup sur le marché en Suisse, des vignes qu'on peut louer ou acheter, ou c'est difficile d'avoir un domaine?
Alors, pour un petit bout de vigne, je dirais, en fait, c'est pas très difficile, mais il faut vraiment rentrer en contact avec les propriétaires, il faut connaître qui est propriétaire, et puis il faut un petit peu réseauter, je dirais.
Toujours pratique. Et puis, la grande question, hein, quand on veut devenir œnologue ou viticulteur, à pas avoir baigné dans le vin quand on était petit, est-ce qu'il faut l'aimer, ce vin?
Alors, je dirais que pour œnologue, c'est sûr qu'il faut l'aimer. Pour viticulteur, plus que aimer le vin, c'est aimer la vigne. Ça, c'est essentiel.
Et pour terminer, qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui aimerait devenir œnologue?
Je lui dirais que c'est un métier passion, mais c'est un métier aussi très exigeant. Comme tous les métiers passion, en fait, s'il n'y a pas la passion, ça ne sert à rien d'y aller parce qu'il y a tellement d'exigences qu'il faut vraiment, être passionné pour pouvoir faire ce métier.
Petite question indiscrète peut-être, on retourne 15-20 ans en arrière, vous referiez le même métier?
Ah oui, sans hésiter.
Sans hésiter. Ouais. Merci Annie, dans la suite de notre discussion, direction la vigne cette fois-ci. On va se retrouver après un petit peu de musique, la météo et l'inforoute.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières sortent du potager ce matin. Nous découvrons le monde de la vigne. Notre invitée Annie Rossi est œnologue et régisseur au domaine de la Griette à Cressier, dans le canton de Neuchâtel. En première partie d'émission, nous avons parlé de la formation de viticulteurs. Il est temps de parler de la vigne.
Et Annie, c'est quoi le climat et le lieu idéal pour la vigne?
Alors, au niveau du climat, au niveau des températures d'abord, c'est entre 9 et 18 degrés. Au niveau de la pluie, c'est 500 à 600 mm de pluie par année. Et l'optimum au niveau du soleil, c'est entre 1200 et 1800 heures de soleil par année. La vigne est plantée, avec tout ça, ça donne un peu une zone géographique. C'est au niveau des latitudes entre le 30e et le 50e parallèle. Nord et sud. C'est un peu différent au nord et au sud au niveau mondial, mais c'est à peu près ça.
Est-ce qu'on est en plein dedans, là, sur le littoral neuchâtelois?
Là, on est bien, oui.
On est bien.
On est un peu au nord, mais on est bien.
Et si toutes ces conditions sont réunies et qu'une vigne est saine, hein, on ne parle pas de maladie, combien de temps peut vivre un pied de vigne? Combien de temps il donnera du bon raisin?
Alors, strict minimum, c'est 20 ans. On dit 20 à 25. Ça peut aller jusqu'à 60. Ça peut même aller, si vraiment on traite bien les vignes et puis qu'il n'y a pas de problème, jusqu'à une centaine d'années. À l'état sauvage, on dit même jusqu'à 150.
Et puis, je me demandais, ces vignes qui vieillissent, est-ce que le raisin change de goût avec les années?
Le raisin change, oui. Le raisin peut être un peu plus concentré parce qu'en fait, au début, la vigne ne va pas être très productive. Puis après, elle va avoir un optimum de production aux alentours de 20-30 ans. Et puis après, ça va décroître. Et en fait, s'il y a un peu moins de production, il y a un peu plus de qualité en général. Donc, grosso modo, c'est pour ça que les vieilles vignes de 50-60 ans produisent. Il y a un système racinaire qui est très bien implanté. Et puis, un rendement qui est bien maîtrisé, et c'est là qu'on a les meilleures qualités.
C'est pour ça qu'on dit que c'est dans les vieilles vignes qu'on fait du bon vin. C'est
exact.
Ça.
Et puis, Annie, pourquoi souvent les vignes sont plantées dans des terrains en pente?
Alors, c'est pour plusieurs raisons. Il y a notamment l'ensoleillement. Si on est en pente, on est en général plus ensoleillé. Au niveau de la circulation de l'air, ça circule aussi beaucoup mieux. C'est important pour protéger des maladies. Au niveau de l'écoulement de l'eau, ça permet de ne pas avoir d'eau qui stagne, donc encore une fois pour les maladies. Et puis ces sols qui sont en pente sont en général plus pauvres et donc moins riches que les sols de plaine. Et puis un peu plus drainant et un peu moins profond. Et ça, c'est vraiment des sols qui sont les mieux pour la vigne, contrairement par exemple à l'agriculture
maraîchère, où on aime mieux que ça soit plat.
Exactement.
Annie, vous l'avez dit, hein, une vigne est dans des conditions optimales quand elle a 20-30 ans, mais parfois on doit replanter des nouveaux pieds de vigne, des cèpes, c'est juste, c'est comme
oui,
ça
c'est
qu'on
juste,
dit.
Ouais.
Au bout de combien de temps on aura du raisin?
Alors, en général, on peut avoir du raisin à partir de 3 ans. Des fois, à partir de 2 ans, tu peux voir des petites grappes. Mais en général, on dit 3 ans. Pour avoir une vraie belle récolte établie, c'est quand même plus aux alentours de 7-8 ans.
Et puis, est-ce qu'un pied de vigne, c'est facile d'entretien ? On peut en avoir à la maison ?
Alors, on peut en avoir à la maison. C'est facile d'entretien, oui et non. C'est un peu exigeant. Il faut juste bien s'en occuper. Donc, il faut soigner la taille, il faut soigner l'arrosage, la fertilisation et puis bien le protéger des maladies quand il faut.
Annie, vous êtes régisseur d'une cave dans le canton de Neuchâtel. On va parler raisin dans un instant. Justement, dites-nous, il faut combien de pieds de vigne pour une bouteille ? On parle d'une bouteille, c'est quoi, 750 centilitres ?
Oui. Alors, en termes de kilos, en gros, il faut 1 kilo pour une bouteille, 1 kilo de raisin.
C'est noté.
C'est noté, on va planter tout ça. Merci Annie, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette discussion autour de la vigne. Et nous parlerons de raisin.
Ben, on attendait un jingle, on a un bed, voilà, les jardinières. Et ce matin, nous parlons de viticulture en compagnie d'Annie Rossi. Après un tour dans les vignes, nous parlons de raisins. Annie, nous sommes fin février, dernier week-end du mois de février. Est-ce que vous pouvez déjà imaginer les récoltes pour l'automne 2023 ?
Absolument pas.
C'est le néant.
Absolument pas. Il y a encore tout à venir, tout à faire, tout à... Non, on n'a absolument aucune idée.
Et puis, expliquez-nous, quelles sont les grandes étapes de la pousse d'une grappe de raisin ?
Alors, une grappe de raisin, ça va commencer par le bourgeon. Là, dans quelques mois, quand vous allez voir les petites feuilles qui vont sortir, en fait, il va y avoir des toutes petites inflorescences, on les voit, c'est vraiment tout petit. Et puis ensuite, ça va grandir, ça va devenir des fleurs. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle la nouaison. C'est la fleur, en fait, qui se transforme en fruit. Ensuite, il va y avoir la véraison, c'est le fruit qui change de couleur, et puis la maturation, voilà.
Mais justement, après de longs mois d'attente, le raisin arrive à maturité. Comment choisir le bon moment pour le cueillir ?
Alors, il y a des méthodes analytiques, et moi, celle que je préfère, c'est la méthode gustative, sensorielle. Donc, on goûte les raisins. On goûte, c'est-à-dire qu'on goûte la pulpe, on goûte la pellicule, on goûte le pépin. On regarde si la pellicule est gélatineuse ou pas, si elle a du goût, si la pellicule est épaisse ou pas, si elle se défait bien. Et le pépin aussi, s'il est vert, s'il y a encore de l'amertume ou s'il est bien lignifié.
Mais du coup, vous devez goûter à plusieurs endroits parce que les vignes, c'est quand même très étalé sur les coteaux. Du coup, vous goûtez un en haut, un au milieu, un en bas et là, vous dites « ça va ».
Exactement, on goûte tout le temps. Et on passe notre temps à goûter déjà toutes les différentes parcelles. Et puis au sein d'une même parcelle, il faut en goûter plusieurs. Ouais.
Et puis une fois que vous avez donné le feu vert, que les raisins sont bons, comment se déroule la cueillette ?
Alors, les vendanges, elles se font tout manuellement. Donc, on a une équipe, nous, on a une assez grosse équipe, avec des sécateurs, dans des caissettes. Et puis on trie beaucoup à la vigne. Et ensuite, on met dans des caissettes. Et puis, les caissettes sont transportées jusqu'à la cave.
Et qu'est-ce qui va se passer ensuite avec ces caissettes et les raisins ?
Alors, les caissettes, elles sont déjà pesées. Ça, c'est la première étape hyper importante. Ensuite, elles sont à nouveau triées. On fait un double tri sur une table de tri. Et puis, le raisin est égrappé, c'est-à-dire qu'on enlève la rafle, qui est la partie verte des grains, donc des baies. Et puis, suivant, grosso modo, hein, si c'est du blanc ou du rosé, c'est d'abord pressé. Et puis ensuite, c'est fermenté. Et puis, il y a la vinification qui se fait. Et si on part en vinification en rouge, c'est d'abord fermenté et ensuite, c'est pressé.
Et puis, à la grillette, vous récoltez quelle quantité de raisins au total ?
Alors, en moyenne, on est sur 110 tonnes de raisins.
Ça fait beaucoup de litres de vin. Vous pouvez en produire combien ?
Alors, ça fait en moyenne 80 litres de vin. Donc, ça fait 100 000 bouteilles à peu près
par année. Une jolie production. Ouais. Merci beaucoup Annie. Justement, le vin, ça sera le thème de cette dernière partie d'émission. Et puis vous qui nous écoutez, si vous avez une petite question sur les vignes ou la viticulture, eh bien Annie est là pour vous répondre ce matin. Ça se passe au 0901 70 20 20. On va se retrouver pour cette dernière partie, juste après une pause musicale.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, chez les jardinières, nous sommes en compagnie d'Annie Rossi, œnologue et régisseur du domaine de la Griette à Cressier, dans le canton de Neuchâtel. Nous avons parlé de formation en viticulture, de la vigne, du raisin. Il est temps de parler de vin. Tout d'abord, on va balayer les idées reçues. Annie, un raisin noir, c'est pour le vin rouge, un raisin blanc pour le vin blanc, et puis un mélange des deux, c'est pour le rosé. C'est juste, c'est faux?
Gros syntox.
Ouh là là.
Non, pour le rosé, c'est issu de raisins rouges qu'on fait plus ou moins macérer et qu'on presse. Voilà.
Et puis Annie, qu'est-ce qui donne la couleur du vin justement?
Alors la couleur du vin vient principalement de la pellicule, et puis parce que c'est les raisins rouges en grande majorité ont la pulpe blanche et la pellicule rouge. C'est très rare en fait les raisins qui ont la pulpe rouge. C'est ce qu'on appelle les cépages qui sont teinturiers. Donc la couleur provient vraiment de la pellicule, et puis c'est le temps qu'on va laisser en fait de contact entre la pellicule et puis la pulpe, c'est ça qui va faire la couleur. Puis la couleur, ça dépend si on macère beaucoup, si on macère pas beaucoup, ça dépend aussi de l'oxydation par exemple, si c'est protégé de l'oxygène ou s'il y a un peu plus d'oxydation, ça va donner des teintes un petit peu différentes.
Donc on peut faire du vin blanc avec du raisin rouge?
On peut faire du vin blanc avec du raisin rouge, oui. Notamment dans le canton, c'est la perdrix blanche. Et il y a aussi tout ce qui est blanc de noir, tout ce qui est champagne. Donc oui, on peut faire. Pour faire ça, il faut peler
le raisin.
Presque on pourrait, mais on va t'embaucher pour ça.
Non,
non, il faut presser très rapidement. Pas très fort, éliminer les premiers jus et les derniers jus. Et puis là, on n'a que le jus du milieu qui est un jus qui est assez clair. Ouais.
Et les premiers et derniers jus, on en fait autre chose?
Alors typiquement, les premiers et les derniers, ça peut devenir de l'œil de perdrix parce que c'est à partir de pinot noir.
Ouais. Ah, voilà. Et quand on goûte un vin, on peut sentir des notes de vanille, de baie des bois ou autre. Enfin, c'est ce que j'entends, hein, parce que moi, quand je goûte, je ne sens pas tout ça. Est-ce que ces arômes sont ajoutés dans vos vins ou d'où est-ce qu'ils viennent?
Alors, ils ne sont pas du tout ajoutés dans le vin. Il y a des précurseurs aromatiques dans le raisin. Donc, le raisin a des molécules avec des précurseurs d'arômes. Et ensuite, la magie, c'est que ce sont les levures principalement qui vont travailler et qui vont produire certains arômes. Il y a les bactéries aussi, suivant si on utilise des bactéries ou pas, qui vont produire des arômes. Donc typiquement, si on utilise les bactéries pour faire la seconde fermentation, la fermentation malolactique, on va avoir des notes lactiques, des notes beurrées qui vont apparaître. Et ça, c'est vraiment les bactéries en travaillant qui ont produit ces arômes-là. Les levures aussi, si on fermente un peu froid, elles sont un peu stressées et elles produisent des arômes plus de un petit peu de banane, ou on dit de bonbon arlequin. Ça, c'est typique de la levure un peu stressée qui travaille. Et puis ensuite, on a les élevages en barrique. Tu parlais de vanille. Ça, la vanille, c'est un arôme qui vient principalement d'un élevage en barrique avec un certain type de bois.
Annie, c'est quoi un bon vin pour vous? Il doit avoir un goût particulier?
Alors pour moi, un bon vin, c'est un vin qui est équilibré. Ça, c'est vraiment la base. Et puis, qui n'a pas de défauts.
Comme vous. Oh. Annie, pour terminer, qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier?
Eh bien, justement, ce qui me passionne, c'est que du raisin puisse donner des arômes qui n'ont des fois pas plus grand chose à voir avec du raisin. Ça, je trouve ça passionnant. C'est passionnant de faire, d'avoir un fruit, un produit de la terre, de faire travailler des levures qui sont vraiment quelque chose de naturel. En fait, toute la fermentation, c'est très naturel comme procédé, et d'arriver à des arômes qui sont, par exemple, du pamplemousse ou des choses complètement différentes que le raisin, et d'exprimer, alors complètement différentes, oui, mais ce sont aussi des choses qu'on a pu goûter et commencer à ressentir quand justement, on goûte les raisins à la vigne.
Il y a beaucoup d'étapes hein, dans la création d'un vin qui vous plaira à vous, mais qui plaira aussi à vos clients. C'est quelle étape que vous préférez, vous? C'est maintenant, quand il faut tailler, quand on voit les premières petites feuilles, quand on récolte, quand on goûte, quand on s'en met plein le ventre?
Je pense que l'étape qui est la plus excitante, c'est au moment des vendanges, puisque c'est le fruit d'une année complète de travail viticole. Et puis, on voit vraiment le résultat et on a tout le champ libre devant nous pour la vinification. Ouais.
Merci beaucoup, Annie, d'avoir été en notre compagnie ce matin. On rappelle que vous êtes œnologue et régisseur au domaine de la Grillette à Crécié, dans le canton de Neuchâtel. Bon week-end et bonne récolte de raisins pour 2023.
Merci.
On vous la souhaite déjà très prolifique. Les jardinières, c'est terminé pour ce matin. Pour écouter l'intégralité de cette émission, elle sera disponible en cours de matinée sur notre site internet. La semaine prochaine, c'est Olivier Ribaud, pépiniériste à Porrentruy, qui sera notre invité, qui répondra à vos questions jardinage. Nous parlerons notamment d'un citronnier un peu sec. On vous souhaite un bon week-end. Bon week-end, Brian.
Bon week-end, Mylène.
Et bon week-end à toutes et à tous. À samedi prochain.
7h, 8h, les jardinières.